Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Hospitality, le podcast qui décrypte avec vous les visions de différents acteurs qui font bouger notre secteur de l'hôtellerie-restauration. Avec pour vocation l'inspiration, je vous invite à me suivre, moi, votre hôte Mathilde, à travers mes échanges spontanés avec différentes personnalités. L'épisode d'aujourd'hui est un peu spécial car je vous propose de découvrir un métier sans lequel les plats des restaurateurs et des chefs ne seraient pas connus en dehors des frontières du restaurant. J'ai nommé le stylisme culinaire. En effet, c'est une profession qui nous sert tous les jours, notamment sur les réseaux, sur Instagram, sur les sites internet, avec toutes les photos qu'on peut voir des magnifiques plats, mais dont on parle peu. Alors j'ai décidé de m'interroger sur les dessous de cette profession et je reçois aujourd'hui Maureen, alias Foodistory, qui va nous expliquer comment elle en est venue à devenir cette styliste culinaire qu'elle est aujourd'hui. Elle est très talentueuse et j'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir sur mon Instagram, @esprithospitality. Une très bonne écoute à vous. Bonjour Maureen.
Et ben bon.
Bienvenue sur le podcast Esprit Hospitality. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui à l'antenne, puisque tu as un parcours un petit peu particulier. Donc, tu es une professionnelle aussi du secteur de l'hôtellerie-restauration, mais d'une façon un peu différente, puisque tu as une certaine activité en tant qu'entrepreneuse, et puis tu es sur tout ce qui est community management, et puis tu as aussi une spécialité dans la direction artistique, dont on va parler bien sûr, et tout ce qui est photographie culinaire aussi. Alors est-ce que tu pourrais tout d'abord te présenter, et puis nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours et d'où tu viens ?
Oui, bah déjà merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce sujet, je trouve ça plutôt sympa. Donc moi c'est Maureen, j'ai bientôt 26 ans. Alors mon parcours, alors j'ai commencé avec un bac STI art appliqué, donc vraiment accès art. Pour donner une idée, en terminale j'avais 24 heures de cours d'art par semaine, donc c'était quand même...
On est sur déjà un parcours un peu atypique dès le départ.
Exactement. Après, c'est vrai que moi, j'ai en fait ma toute première passion, c'est l'écriture, vraiment. Donc, depuis que j'ai 11 ans, j'écris, mais vraiment des carnets, j'ai fait des concours, c'est vraiment mon truc.
D'accord. Donc, tu es quelqu'un de littéraire de base.
Ah oui, très littéraire, ouais. Et en fait, du coup, c'est vrai que je voulais un peu revenir à ça. J'étais un peu... Enfin, de toute façon, on est toujours un peu perdu dans ces moments-là. C'était à la base pour aller dans la mode, hein. Je préfère le préciser.
Par rapport à ton activité actuelle qui est vraiment dans le style culinaire, etc., c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur la même base.
Exact. Mais il faut savoir que la mode avait toujours été aussi un domaine qui m'intéressait. Voilà, je voulais vraiment être styliste, en fait, clairement, à cette époque-là.
D'accord, c'était ton projet professionnel quand t'étais plus jeune.
Ouais, c'était un peu le côté aussi, je pense, tu sais, très... Voilà, faire partie du milieu, le côté paillettes. Je pense que c'était ça aussi qui me donnait envie. C'est un peu un rêve de petite fille, quoi, je pense. J'écrivais beaucoup. C'était vraiment un espèce d'échappatoire. Ça a toujours été un échappatoire pour moi. Et je me suis quand même dit, je ne peux pas ne pas tenter. Donc, en fait, j'ai même pas essayé de faire une école d'art, de mode. C'est que j'ai directement été après en licence, sciences du langage, information, communication, qui est axée journalisme. On avait des cours de droit des médias, on devait écrire des articles, on connaît les relations presse, les techniques de l'infocom. Enfin, voilà, c'était assez quand même journalistique. Je m'étais vraiment dit, je vais être journaliste, en fait. Alors, revirement, ça a toujours été un peu compliqué chez moi pendant un petit moment, c'est de me retrouver dans toutes les choses qui m'intéressaient. Donc, voilà, après cette licence, je me suis rendu compte que là, enfin, le côté artistique me manquait. Non mais c'est fou parce que c'est là qu'on comprend qu'il n'y a que en fait en faisant, en étant dans les études, qu'on sait en fait. Parce que du coup, moi je me faisais une idée du journalisme. C'est vrai qu'il y avait toujours, c'est ce qu'on appelle la règle des 5 W quand on fait des études dans le journalisme. C'est quoi, quand, comment, qui, pourquoi. Voilà. Et en gros, il fallait écrire de cette manière-là. Enfin, en fait, c'était ultra cadré. Et moi, j'ai eu une écriture hyper spontané. Bah, comme la mode, en fait. Il y avait ce côté où tu as une idée du métier comme ça, tel que tu te le représentes, le côté ouais, c'est cool, voilà. Et en fait, il y a le côté, mais oui, mais il y a des règles à respecter, on peut pas écrire ce qu'on veut, il y a un nombre de caractères à respecter, et c'était pas fun, en fait. C'était pas fun du tout. Que j'observe, tout le monde est perdu dans nos âges, entre 18 et 25 ans.
C'est la pire période pour savoir bah, pourquoi on est fait, où aller, que choisir, parce que finalement, on se dit, on se met beaucoup de pression à savoir quoi faire plus tard parce que ça va déterminer notre vie, etc. Alors que finalement, bah, on apprend de ses expériences, donc il faut tenter.
Mais c'est ça, mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en plus, quand bah oui, forcément, on rend toujours des comptes à nos parents, à nos proches, donc on nous met toujours cette pression de vas-y, il faut que tu trouves ta voie, et c'est ça. Et pour toute ta vie, toute ma vie, au fil de mes expériences, j'ai un peu bifurqué parce que bah, j'ai testé les choses, j'ai vu ce qui m'allait, ce qui m'allait pas. Et c'est pour ça qu'après, donc après cette licence, j'ai quand même réussi à trouver, c'est que j'ai passé un concours et je suis rentrée directement donc en troisième année de bachelor. C'était de la création publicitaire à Sup de Pub à Lyon.
Donc tu déménages, tu viens à Lyon et tu te lances là-dedans.
C'est ça. Je suis arrivée, j'ai été prise sur concours. Sauf que moi, j'avais aucun book, j'avais jamais fait d'affiche de communication, Photoshop, tout ça. Pour moi, c'était juste un univers à part. Et j'avais que mes dessins avec moi. Et c'est vrai que je me suis retrouvée dans cette école où j'étais la seule, mais vraiment, c'était assez dur. J'étais la seule de ma classe à ne pas connaître Photoshop. Mais voilà, après, il y a eu d'autres tests. Il y a eu de l'anglais, un entretien de motivation.
Oui, il y avait quand même de la littérature aussi, enfin, tout ce qui était journalisme, etc. Puisque tu étais quand même dans une école de pub, quand même être habilitée à savoir parler aussi pour écrire des articles, j'imagine.
En fait, tout se relie parce que forcément, en fait, dans la formation, bon, moi, nous, on n'en a pas eu à Lyon, mais normalement, c'est par exemple l'école de Paris, la même école, la filière à Paris, ils ont de la conception rédaction. Et moi, c'était totalement ce qui m'intéressait. Et du coup, c'est relié parce que aujourd'hui, la direction artistique, les gens, personne ne peut en donner une définition quand en fait, t'es pas dans le domaine. Qu'on soit justement directeur artistique dans la mode, bah pour de la nourriture, dans une agence de pub, dans le domaine du spectacle, la direction artistique, le métier de directeur artistique ne sera absolument pas le même. Même si, au final, DA, ça veut dire diriger une équipe, avoir les idées, et de tes idées... tu vas diriger tout. La fonction reste la même, mais en vrai, le métier n'a juste aucun rapport selon les univers dans lesquels tu es, quoi.
Et à l'époque, rien vraiment en relation avec le culinaire, l'alimentaire, la restauration
Si, parce que du coup, après déjà ce bachelor-là, je devais faire un stage de 3 mois. Et en fait, je m'étais rendu compte justement en faisant Sup de Pub que toutes les campagnes publicitaires qu'on avait analysées, ou même en général quand on devait répondre à un brief, ça partait d'une photo. Alors, c'est tout bête, mais les pubs qu'on voit aujourd'hui, même dans les magazines, ça part, voilà, même la pub, la vache qui rit, enfin, typiquement, enfin, voilà, je prends le premier exemple bien. Mais Coca-Cola, vache qui rit, enfin, tout ce qu'on peut connaître, en fait, c'est une photo, mais même dans la mode, c'est une photo, c'est une mannequin qui porte le vêtement, il y a la marque Chanel, et puis basta, et c'est fini, mais c'est la photo qui fait tout, en fait. Je pensais que c'était hyper complexe et qu'il fallait que je maîtrise un niveau de Photoshop énorme, et ça a été un gros problème parce que j'ai dû m'y mettre un peu toute seule. C'est pas ce que j'ai appris à l'école qui a fait qu'aujourd'hui je sais ce que je sais. Et en fait, je pensais qu'il fallait juste faire des montages de dingue, créer totalement une image nous-mêmes par Photoshop. Alors que non, quand on regarde que ce soit des couvertures de magazines et toutes les campagnes de pub, ça part...
Mais tout part de la photo.
D'une photo. Et de là, on rajoute un ou deux textes, ou des fois, oui, elle est un peu modifiée. Mais voilà. Et c'est là que je me suis dit, ah, et la photo, je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. De cette réflexion-là, je me suis dit, tiens. Et c'est vrai que tous mes amis sont partis en agence de pub, enfin, ont démarché en tout cas les agences de pub pour leur stage. Et moi, j'étais une des seules à avoir démarché en fait des studios de production audiovisuelle, de food, justement, je crois que je démarchais. Et donc voilà, en fait, c'est là que j'ai trouvé du coup un stage au sein de Picabel, donc un studio de production audiovisuelle à Lyon. Et d'ailleurs, je raconterai une petite histoire là-dessus, mais je bosse aujourd'hui pour eux en tant que freelance, donc c'est super cool.
Sympa. T'es revenue sur tes premières expériences finalement qui se sont bien passées, et du coup, maintenant, tu te lances avec eux.
Et en fait, à l'époque, c'était fou parce que c'était parfait. J'ai fait mon entretien et en fait, ils me disent, tu sais, alors nous, par contre, on bosse beaucoup pour Deliveroo, voilà, c'est quand même beaucoup de notre activité. Et je savais même pas, en fait, quand j'avais postulé, j'avais juste vu qu'ils faisaient de très belles photos. Et en fait, c'était juste génial d'arriver à l'entretien et de me dire, En fait, c'est trop cool parce que justement, je voulais faire ça déjà. Enfin, je réfléchissais déjà à ça. Et juste Deliveroo et aller prendre des plats dans les restaurants. Mais je m'étais dit, mais trop bien. Mais je voulais. Et du coup, j'ai voulu vraiment ce stage à l'entretien quand ils m'ont parlé de ça. C'est un travail de qualité. Ils faisaient vraiment des très belles choses. Enfin, franchement, c'est très quali ce qu'ils font. Mais c'est surtout qu'ils ne mettaient pas en avant ce Deliveroo. En fait, c'est vraiment à l'entretien qu'ils m'ont dit, au fait, nous, du coup, on travaille. En fait, ils faisaient juste. Tout Deliveroo à l'époque, ça explosait parce qu'il faut savoir que il y a 4 ans, c'était entre guillemets à Lyon l'explosion de tout ça. Donc ils ont couvert, je crois, c'est marqué sur leur site en plus, je crois, ils ont couvert 300 restaurants. En fait, c'était eux qui avaient tout le marché. Donc en fait, pendant 3 mois, j'ai clairement fait 70% de ça, quoi. Et du coup, c'est là que je me suis dit, mais mon Dieu, mais j'adore. Et en fait, ça m'a convaincue. J'ai acheté mon appareil photo aussi à cette période-là, donc important.
Parce que jusqu'alors, tu prenais avec quel appareil ?
Mais je prenais rien du tout. Enfin...
Ah, t'avais pas commencé du tout la photographie ?
Non, bah non, mais en fait, comme je t'ai dit, je suis allée à Sub de Pub, je me suis juste dit, oh tiens, je galère en logiciel, c'est vrai que tout part de la photo finalement, et tiens, je vais m'intéresser à la photo, et du coup, je vais trouver un stage dedans, je verrai si ça me plaît.
D'accord, t'en avais vraiment jamais fait avant, même pas
pas du tout.
D'accord.
Moi-même, jamais je me serais dit, mais que je ferais de la photo un jour. Enfin, j'étais à des mille lieues de ça quand j'avais entre 16 et 18 ans, quoi. Enfin, donc voilà, donc il y a eu ce stage-là, ça m'a convaincue, j'étais à fond, j'ai investi dans mon premier tout petit réflexe, c'est là que ça a un peu démarré.
Donc clairement, pendant ce stage, tu faisais finalement toutes les photos pour Deliveroo ?
C'est pas moi qui les faisais, hein, parce que forcément, bon, j'étais stagiaire, j'arrivais, il fallait aller vite, parce qu'il faut savoir que Deliveroo, en plus, puis toujours maintenant, t'es payé à l'heure, mais t'es pas hyper bien payé, et pour un photographe, c'est moins je passe de temps de présence au restaurant, plus c'est rentable pour moi, parce que être payé, enfin, je sais pas, 70€ de l'heure, mais en fait, il restait 2 heures, plus rentrer, te retoucher, enfin, voilà, bref. Et donc, ils ne me laissaient pas toucher. Par contre, il y a des fois, ils me disaient, vas-y, éclate-toi. Et là, j'essayais de faire un peu la mise en place. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu aussi le stylisme culinaire. Je veux placer le couvert comme ça, l'assiette comme ça. J'ai envie de rajouter, je sais pas, une salière, une poivrière.
C'était vraiment sur toute la réflexion du cadre photographique, finalement.
Puis j'observais et puis... Enfin, voilà, c'était... Je pense pas avoir, moi, fait les photos. Mais par exemple, je me souviens que j'avais adoré... Ce shooting-là, c'était pour Nardone, hein, les fameuses glaces Nardone. On avait mis une petite fausse pelouse, on avait placé le cornet de glace dans un petit support métallique. Et puis oui, j'avais mis 2-3 petites fleurs. Enfin voilà, ça je m'étais éclatée parce que j'avais vraiment créé un univers. Et c'est là que je me suis rendu compte, j'ai dit, mais en fait, j'adore faire ça.
Créer des atmosphères et puis permettre de capturer le moment, quoi.
Bah du coup voilà, c'est ça, sauf que du coup je le capturais pas, mais en tout cas déjà j'adorais juste mettre en scène les choses. Donc voilà, suite à ce stage, j'ai dû trouver une alternance pour le master direction artistique que je voulais poursuivre du coup à Sub de Pub. Et en fait je m'étais un peu rendu compte, sans vouloir dénigrer l'école, hein, mais que bon, clairement une école qui est aussi chère à l'année, ça ne valait pas de repasser une deuxième année comme ça, donc je voulais à tout prix la faire en alternance cette année-là.
C'est vrai que l'alternance est clairement un bon moyen de sauter dans l'expérience. Hein.
Exactement. Puis je pense que j'ai toujours aimé, j'ai toujours travaillé énormément et je crois que ça a toujours fait partie de moi, quoi. J'ai toujours adoré travailler et je me voyais juste être dans le concret. Donc je me suis mise beaucoup à envoyer des mails. Et du coup, j'ai démarché des agences food, notamment du coup, bon, à l'époque à Lyon, il y avait c'était le studio Umami. En plus, tout a changé. Enfin, en 4 ans, voilà, des agences sont apparues entre temps. Mais il y avait quoi ? Il y avait 2 agences à Lyon vraiment à l'époque.
Oui, à l'époque, c'était pas du tout développé en fait dans la food.
Non, on va dire qu'il y avait deux agences dominantes et puis voilà quoi. Enfin, clairement, et puis les autres étaient trop petites ou c'était des personnes freelance et ils prenaient clairement pas d'alternants. Donc en fait, je me suis juste pris un peu des murs, sauf pour le studio Umami, où en fait j'étais toujours dans mon stage avec Picabel, mais comme je démarchais du coup pour la rentrée de septembre, on était en plein été, bah
oui, en même temps.
Voilà. Donc j'essayais quand même aussi de démarcher pendant ce temps-là, et le studio Umami me dit, écoutez, votre profil nous intéresse, on veut que vous veniez passer une journée avec. J'ai adoré quoi. En fait, je parlais avec la styliste culinaire, sauf qu'il y avait un peu deux postes. Il y avait un peu un poste de photographe culinaire et de styliste culinaire.
Alors, quelle est la différence ? Parce que sans, sans connaître, c'est vrai que moi et puis l'audience sûrement, on comprend pas trop la différence.
Le photographe culinaire, il arrive, il prend la photo, point. Après, il prend pas juste la photo, évidemment, il fait les éclairages.
Oui, il y a tout le montage préalable, la conception de l'ambiance, de l'atmosphère.
Non, mais justement, non. En fait, il s'occupe des lumières, évidemment. Il retouche les photos derrière, il prend les photos. Et la styliste culinaire, par exemple, que je fais dans mes shootings, par exemple, en ce moment, je fais beaucoup de shootings à la maison, hein. Vive le confinement. Et du coup, ben, c'est vrai que je commence toujours par faire un mood board, un petit mood board sur Pinterest, c'est-à-dire qu'on recherche des images qui nous inspirent, parce que j'ai un peu déjà mon idée de base quand même. Dernièrement, j'ai fait un shooting sur les cookies. En gros, il fallait que le thème il soit assez bleu, il fallait que ça montre un peu la naturalité, donc ce côté un peu bois aussi, intégrer un peu des fleurs. Je me crée un petit tableau, voilà, un petit tableau d'inspiration, et de là, tu réfléchis à la vaisselle, au décor, au fond. Donc quand je dis le fond, c'est tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ça peut être une vieille planche de bois. En ce moment, bah, j'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup de papier peint qu'on m'a donné. Enfin, donc, je suis très contente, ça me fait beaucoup de fond. Des fois, je récupère sur le bon. Le fond, la vaisselle et juste l'ambiance, l'univers. Pourquoi choisir ce torchon-là avec ce couvert-là, enfin, ça paraît étrange, mais c'est...
Non, mais c'est toute une réflexion sur... très créative, en fait.
Exactement, pour moi, c'est vraiment un art, en fait. Et donc, c'est ça, la styliste culinaire. Et en fait, on a clairement parlé de vaisselle pendant une journée. Et à la fin de cette journée, ça s'était très bien passé. J'étais déjà amenée, à cette époque-là, finalement, à me dire « Ah ouais, mais il faut choisir. » Par exemple, ils m'ont dit « Ouais, mais d'accord, mais en fait, tu veux faire le stylisme ou tu veux faire la photographie ?» Mais en fait, je veux tout faire, vous comprenez pas. Je veux cuisiner. Ah oui. Et la styliste culinaire cuisine en principe aussi.
Bah oui, parce qu'au-delà de l'atmosphère, il y a quand même le produit à prendre en photo et à mettre en valeur.
Exactement. Donc la styliste culinaire, en principe, clairement, elle sait cuisiner, elle adore cuisiner et elle aime rendre sexy les aliments. Voilà. Et oui, bah en fait, c'est ça, c'est que je leur ai dit, mais enfin, offrez-moi ce que vous voulez. Soit un poste de photographe ou de styliste, j'aime tout. Ils m'ont dit oui, mais c'est un problème, etc., etc. Et c'est vrai que bon, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, je crois, dans la mentalité française. C'est ce côté.
Qui nous met dans des cases.
Voilà, mais de moins en moins quand même. Hein, concrètement, on est quand même beaucoup plus maintenant dans autre chose, mais quand même. C'est quand même très français. Ça a toujours été mon souci, comme je dis encore une fois, c'est que je peux pas me cantonner à une chose. Donc, ben, je leur ai dit ça, ils m'ont dit « on vous tiendra au courant ». Je continuais clairement à démarcher, hein, j'attendais pas après une réponse. J'avais tellement pas de réponse à Lyon, mais j'ai postulé à Paris. En fait, je me suis dit « là, je veux juste une alternance, en fait. » Enfin, qui me plaise un minimum, mais je voulais une alternance. Et est réapparu un peu ce truc de me dire « ouais, mais la mode aussi, ça te plaît ». Et c'est vrai que comme le culinaire, il n'y avait rien. Mais même à Paris, hein, c'était... Enfin, déjà, il y en a plein qui ne prennent pas d'alternant parce qu'ils sont trop petits en termes de structure. Agence food, agence... Enfin,
surtout à l'époque, c'était pas très connu.
Bah, c'est ça, même pour Paris, oui, il y en avait. Et en fait, je me suis juste dit, mais il faut juste que tu trouves un domaine qui te plaît et la mode, ça te plaît. Juste, tâtonnes tout ce qui te plaît. J'ai eu une réponse d'une marque, c'était dans la mode, en fait, dans le luxe.
Donc finalement, l'autre agence, c'était niette, il n'y avait pas de place.
Bah justement, le souci, c'est que j'étais en train de tout régler. J'étais en train de chercher mon appartement à Paris, de signer les derniers documents. Et là, le studio, il m'a mis, on arrive mi-août, il se réveille. Coucou Maureen, on aimerait que vous veniez passer une autre journée avec nous. Voilà, on était mi-août et puis c'était... Franchement, j'avais enclenché... je me suis juste totalement mise dans l'alternance. Donc la marque s'appelait French Deal. Je suis arrivée du coup à Paris pour la rentrée de septembre. J'ai dû changer d'école parce que mon entreprise voulait une école un peu moins chère à prendre en charge. Donc l'école CIFACOM où j'ai pris la filière Master Direction Artistique. Et là, j'ai commencé mon alternance en tant que officiellement chargée de communication graphiste.
Donc quand même une bonne expérience durant cette alternance.
Justement, ça a été une année horrible pour moi, cette année-là. Alors oui, je suis allée à Washington. Oui, j'ai fait la Fashion Week. Oui, enfin bref, j'ai croisé même des personnes célèbres qui venaient au showroom et tout ce qu'on veut. Mais en fait, ça a été une des années... ça a été assez horrible. J'étais seule. Je passais ma vie à travailler. Je faisais, je pense, facilement 50 heures par semaine pour gagner 900 euros. Pour vivre à Paris. Donc en fait, je travaillais en plus les week-ends, je faisais des gardes d'enfants, je n'avais aucune vie sociale.
Et en plus, tu t'éclatais pas non plus au boulot.
En fait, j'étais la seule à mon poste. Ils m'avaient pris pour être chargée de com, mais j'avais personne qui m'apprenait quoi que ce soit. J'étais la chargée de com de la boîte. Donc je n'ai rien appris de personne. sauf de moi-même. Du coup, c'est déjà pas mal. Mais voilà, et c'est vrai que ça a été...
formateur.
Ça a été hyper formateur, ça m'a fait gagner beaucoup de caractère, parce que voilà, j'ai... Bref, ça a été une expérience assez particulière.
Est-ce que c'est là que tu te rends compte que bosser plus tard en entreprise, c'est pas pour toi ?
En fait, j'ai craqué, mais quand je dis j'ai craqué, c'est que ça faisait 3-4 mois, j'étais à Paris, donc on est au mois de décembre. Ma famille m'a vue, ça se voyait que ça n'allait pas, et ça faisait 3-4 mois seulement j'étais à Paris. En fait, je suis revenue des vacances de... J'ai eu une semaine de vacances à Noël, je suis revenue en gros après le, je sais plus, le 2 janvier ou quelque chose comme ça. J'ai dit à mon boss, voilà, je veux arrêter. Et il m'a dit, oui, mais tu sais que ce n'est pas possible. Donc, on s'est donné une date, et puis en fait, je suis restée finalement un an et un mois là-bas. Et en fait, j'ai pris la décision d'arrêter mes études à mon master 1, alors que, enfin, concrètement, je travaillais bien. Je crois que ça a été une des choses les plus courageuses que j'avais pas fait depuis longtemps aussi. Et puis voilà, en fait, quand tu vois plus l'intérêt de pourquoi t'es là, de pourquoi juste continuer un master, parce que j'ai voulu bien faire les choses quand même, j'ai voulu bien tout faire bien jusqu'à la fin.
Oui, histoire d'avoir un petit background quand même, de pas partir dans la vie sans rien.
Je suis comme ça, j'aime aller quand même au bout. Et pour moi, le bout, c'était juste terminer cette année, parce qu'il fallait quand même se dire que ça faisait des mois que ça n'allait pas. Donc j'aurais pu quand même arrêter en fait, mais j'ai dit non.
Oui, tu voulais pas trimer pour rien, tu voulais aller vraiment jusqu'au bout de la chose pour te dire...
J'ai tout terminé, je suis partie, je suis revenue un peu, et je regardais quand même toujours des offres, voilà. Et je sais pas pourquoi je m'étais quand même remis cette idée un peu de dans la mode et tout ça.
Parce que tout ce qui était photo, culinaire, etc., t'avais tout laissé tomber à ce moment-là?
Ah oui, alors non, oui, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'important que je loupe. C'est que ça a quand même tellement toujours été présent, que justement, pendant French Deal, je m'étais dit, mais Maureen, il faut que tu fasses une formation photo, il faut que tu ailles totalement dans la photo. Et en fait, j'avais contacté, il y avait une offre d'alternance pendant cette année-là, elle s'appelle Marie-Élise Lortios, elle habite à Dijon, c'est une photographe culinaire, et en fait, elle cherchait un étudiant en alternance, parce que tous les ans, elle prend quelqu'un en alternance, et je tombe sur la seule offre en France qui existe, et qui est à Dijon, donc pas très loin de chez moi en plus à la base. Et je me dis, mais mon Dieu, c'était l'offre rêvée sur un plateau, quoi. Je la contacte, je lui envoie mon book. Parce que oui, il fallait savoir que je... Même à Paris, je m'étais mise un petit peu aussi juste chez moi à faire des petites photos un peu culinaires, mais des petites mises en scène où, tu vois, j'allais juste chercher des petites tartelettes au citron à la boulangerie. Je m'embêtais même pas à les cuisiner moi-même, mais voilà, je les mettais en scène. J'avais déjà acheté 2-3 petits fonds photos. Donc si, enfin si, en fait, c'était quand même un peu là. Et du coup, je postule à ça. Elle me dit... Hey, mais Maureen, viens passer une journée avec moi. Et donc j'ai fait un petit Paris-Dijon, pareil, en aller-retour, une journée. Hop, je passe la journée avec elle. Et il y avait justement en plus sa styliste culinaire qui était aussi là. Et là, mais c'était juste magique. Et je crois que c'est là vraiment où je me suis dit, mais c'est ça que je vais faire. Enfin, en tout cas, je
veux le même job, la même agence, je veux monter un truc pareil.
Ça m'a envoyé du rêve. En fait, j'arrive dans un endroit où c'est la caverne d'Ali Baba. Il n'y a juste que des armoires remplies de vaisselle, de bric-à-brac, de la vaisselle par terre, des bouts de bois, de volets, de portes, de... Enfin, en fait, tout, tout pour faire juste tous les décors inimaginables qu'on peut.
Un vrai atelier d'artiste.
Ben ouais, et le coin cuisine, évidemment, et tout, enfin... Voilà, et je suis arrivée là et j'ai passé la journée. En fait, elle bossait pour un petit livre, que je dise pas de bêtises, c'était pour Moulinex, je crois. En fait, c'était un livre sur les petits desserts d'enfants. Voilà, enfin, en gros, elle bossait là-dessus, donc elle avait déjà des bons clients aussi. Et toute la journée, on a mis de la vaisselle par terre et c'était premier set, deuxième set, troisième set. Enfin, c'était bon, tiens, quel couvert avec si ? Oui, mais là, c'est une mousse au chocolat, donc c'est quand même peut-être intéressant. Enfin, voilà. Et ça, j'ai passé une journée encore à faire ça. Donc, j'étais au niveau 1 en contrat d'apprentissage et j'allais avec elle, je gagnais 600 euros par mois. Donc voilà, bah, j'ai juste refusé. On t'offre un peu un rêve sur le plateau.
Mais finalement, déception.
Bah finalement, ah mais oui, mais je pourrais pas vivre en fait comme ça. Donc, ça a été vraiment une grosse déception, je pense. Et là, je tombe sur une offre, mais vraiment, je cherchais sans chercher, mais je vois l'offre et je me dis non, je peux pas ne pas postuler. Et en fait, cette offre, c'est 6 mois, alors en tant que stage, stagiaire, au studio photo Etam, la marque Etam. On fait l'entretien par Skype, je suis prise. Alors que j'avais pas fait d'école de photo, je sortais pas d'une école de mode, et Etam, dans ce contexte-là, de dans leur offre-là, c'est les personnes qui prenaient, je pense, en principe. Donc, je retourne à Paris. Et là, je passe 6 mois, mais génial. J'avais un salaire en plus d'un vrai salaire. J'étais en stage, mais je gagnais 1 400 € par mois. Donc, voilà, c'était juste
parfait.
C'était juste magnifique. On me laissait tout. Mais vraiment, j'étais en stage, mais j'avais un poste, un vrai poste. C'est-à-dire, on me disait, Maureen, tu dois gérer tout le studio photo, organiser tous les shootings. Et en gros, c'était un peu ça. Et je faisais vraiment ma vie.
Et t'avais une équipe derrière toi ?
Bah, il y avait la photographe du studio, hein, quand même. Parce que moi, l'offre, c'était coordonnatrice, productrice, assistante studio photo. Et gestion du studio photo en même temps. Enfin bref, il y avait plein de trucs. Mais je faisais beaucoup de choses. Et il y avait la styliste qui était là aussi. On était 3 dans le petit studio photo, dans notre petit coin. C'était plutôt pas mal. 6 mois comme ça, c'est super. Franchement, c'est top. Les 6 mois se terminent, hein. Voilà, je rentre chez moi encore à nouveau. Allez, petit déménagement, retour à la campagne. Je rebosse en usine, en intérim. Alors par contre là, du fait d'avoir été très indépendante aussi dans cette expérience-là, et je sais pas, je crois que ça m'a appris à beaucoup gérer les choses aussi, parce que ouais, il y avait et c'était beaucoup de la gestion en fait, cette expérience d'organisation. Et là, je savais que je voulais, en fait, je savais que je voulais être mon propre patron, quoi, tout simplement.
Bah, c'est sûr qu'une fois qu'on touche à la gestion, t'as pu te dire, maintenant, j'ai les clés en main pour aller plus loin.
En fait, entre mon passage à French Deal, où je me suis sentie honnêtement comme une moins que rien pendant 1 an, et Etam, il s'est passé quelque chose, quoi. Et je suis ressortie d'Etam, c'est pas, j'ai gagné une confiance en moi. Je sais pas comment l'expliquer, hein. Franchement, je pense, je sais pas, c'est un déclic. Et je me suis sentie capable de le faire, en fait. Donc, l'idée était là. Lyon a toujours été ma ville coup de cœur. J'ai ma grande sœur et mon grand frère qui habitent depuis des années. En fait, c'était juste logique que j'y retourne. Donc, je vais à Lyon et là, je me dis, bon, allez, maintenant, lance-toi. Et donc, là, il se passe 6 mois avant que je crée mon statut. Donc, en juin de l'année dernière, je crée mon statut.
Et alors, pendant ces 6 mois, qu'est-ce qui se passe ?
Juste, je travaille pour payer mon loyer. Je vis d'amour et d'eau fraîche, j'ai mes projets qui germent dans ma tête, je commence un peu à bidouiller de la photo aussi à la...
Oui, voilà, t'as quand même quelques petites idées qui viennent, tu vois ton projet se...
Oui, mais concrètement, je fais rien de spécial. J'ai commencé vraiment à faire mes photos à la maison en mars. Je commence à créer du contenu, à me dire je lance une page Instagram, Foodistory, en mars de l'année dernière.
Et d'où vient le nom alors ? T'as commencé par là ou pas du tout ?
C'est marrant parce qu'on m'a fait une réflexion sur mon nom il n'y a pas très longtemps. En fait, je crois que Foodistory, ce que j'aime bien, c'est ce côté un peu la chocolaterie, tous ces noms un peu qui finissent en la boulangerie. En fait, je trouve que ça fait référence souvent au milieu culinaire, ce côté le riz de la faim. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que
je veux dire. Oui, un endroit finalement, ouais, une industrie, une factory.
Oui, exactement, mais c'est ça, c'est la factory food, mais sauf qu'à Lyon, il existe la food factory. Donc, je ne pouvais pas m'appeler comme ça.
C'est vrai.
Donc, Foodistory, oui, ça fait un peu... On m'a reproché que c'était un peu l'anglicisme français, enfin bref. Mais voilà, moi, je suis très contente de ce nom. Et franchement, il est venu sans que je réfléchisse, pour être honnête. Mais voilà, je pense que ça me rassurait, ce côté la chocolaterie, la boulangerie. Voilà. Donc voilà, en juin, je me lance officiellement. En fait, j'ai pas eu le choix que de créer mon statut parce que j'ai juste eu un client et que ce client était une agence événementielle. Oui, alors totalement autre chose. C'était la direction artistique en événementiel. Donc aucun rapport, mais bon bref, j'ai eu ce contrat. Et l'été qui arrive, dans la foulée, je rencontre ma première cliente, Marine, du restaurant Ma Poké, qui se situe à Cordeliers d'ailleurs. Donc si vous avez l'occasion, les Poké sont une tuerie. Voilà,
on ira voir ça.
Donc c'est ma première cliente, et là
tu trouves ou qui te trouve.
Je crois que elle a posté une annonce, tu sais, sur les groupes Facebook du style Wanted Community, et en fait c'est moi qui dirais qu'elle paguait en message privé, coucou, moi je suis photographe. et voilà, et ça s'est fait comme ça. Et en fait à l'heure actuelle, je travaille toujours pour elle. Dès qu'elle a quelque chose à faire, c'est à moi qu'elle demande. En fait, on a construit vraiment un lien sur le long terme, et ça, c'est génial.
Oui, et puis dans ce genre de métier, j'imagine que plus tu gardes une personne sur le long terme, mieux c'est pour pouvoir connaître un petit peu les clients, comment ça se passe vraiment dans la structure. Et puis, parce que sinon, c'est difficile d'intégrer la vraie philosophie du restaurant si finalement tu viens d'arriver et que tu ne le connais pas vraiment.
Exactement. Après, il y en a plein qui s'en moquent. En fait, ça dépend comment tu veux travailler. Moi, c'est vrai que je veux travailler comme ça. Marine aussi. Tant mieux. Du coup, on s'est très bien trouvé, on s'est très bien entendu. Elle est jeune, elle est. Et puis, c'est ça. Et en fait, moi, son projet, je le trouvais juste génial. Elle avait pas encore ouvert son projet. J'ai fait tout. J'ai fait ses cartes de visite, son menu, les photos. Enfin, c'était génial. Ouais,
tu t'as l'impression. Oui, t'as été vraiment sur l'accompagnement de A à Z au niveau de son ouverture.
Ben c'est ça, et puis on se sent un peu appliqué. Enfin, moi j'étais contente quand elle a fait son inauguration. Enfin, en fait, je suis contente.
Ouais, tu te sens faire partie de la structure aussi.
C'est ça. Puis même, je crois que j'aurai toujours un petit attachement parce que ça a été ma première cliente dans le domaine food en photo et je crois que je n'oublie jamais son premier client. Enfin, je pense que dans 10 ans, je m'en souviendrai toujours, quoi.
Donc, tu commences avec de la photographie de Pokéball.
Et ouais. Et bon, après, il s'en est suivi un restaurant indien. Après, j'ai travaillé un peu chaque mois presque pour Marine pour des petites choses. Qu'est-ce qu'il y a eu En fait, pour moi, mon entreprise, elle a commencé en octobre, vraiment 2019.
Donc, c'est le moment où tu commences à avoir le plus de clients, tu dirais, où tu commences vraiment à démarcher.
Où je démarche, en fait, c'est tout, tout simplement. Et c'est pour ça que je considère que pour moi, ça commence à ce moment-là, parce que c'est là que je commence vraiment à vraiment bosser pour avoir mes clients, pour chercher les choses, et que je mets en place mes petites graines qui font qu'aujourd'hui, oui, là, ça commence à évoluer, mais seulement maintenant. Parce qu'en fait, c'est ça, tu plantes des graines pendant, je pense que pendant un an, tu plantes un peu des graines, voire même pendant 2 ans, et après tu récoltes, un peu au fur et à mesure, mais c'est ça. Et du coup, donc, après, ce qui a été hyper, quelque chose dont je suis fière, c'est que là, j'ai commencé à travailler du coup avec le Cause Magazine, donc qui est un magazine assez connu dans le domaine, quand on connaît un petit peu la presse food à Lyon, c'est...
Culinaire, oui.
Voilà. C'est assez connu et du coup, ben ouais, mais ça c'est pareil, c'est une fierté. Et voilà, après il y a d'autres choses. Enfin, après, moi je préfère pas parler de choses qui ne sont pas encore totalement concrètes, mais on va dire que je suis en discussion aussi avec un très grand groupe laitier et que je suis censée là bientôt commencer à je vais travailler pour eux. Oui, mais ça c'est juste. Enfin, c'est incroyable. Enfin, bon, mais je.
C'est vrai que ça va te changer de travailler avec des petits indépendants et de sauter le pas dans un plus grand groupe. Je pense qu'il y a vraiment une différence.
Bah, c'est même pas ça, c'est le job en lui-même. Enfin, en gros, pour ce groupe laitier-là, j'aurais vraiment un travail, moi, de cuisine, de recettes, chose que je veux faire, en fait, de plus en plus. Moi, mon rêve, c'est plus de juste arriver, prendre des photos. Alors, j'adore, hein, mais c'est vraiment de cuisiner de A à Z, de faire le décor de A à Z, d'imaginer l'ambiance. Après, évidemment, ils ont des briefs, mais c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pas... Au contraire, je trouve ça super intéressant de travailler avec des petites structures. Je vise pas que des... Après, évidemment, c'est aussi financier. Enfin, faut pas se mentir. Évidemment que plus on va travailler avec des grosses structures, des gros groupes, mais le salaire, ça n'a rien à voir.
Oui, bien sûr.
Donc c'est surtout, enfin, faut le dire, c'est ça qui fait aussi. Mais non, au contraire, j'adore travailler avec les petits restaurants. Et justement, on est beaucoup dans une ambiance familiale. Et moi, c'est ce que j'aime.
Tu pourrais décrire un petit peu une journée type que tu ferais avec un restaurant. Enfin, qu'est-ce que tu fais en réalité avec eux?
Alors, je vais prendre l'exemple. J'avais fait le restaurant Le Shimla à Villeurbanne, qui est un restaurant indien. Où je leur avais proposé avec tous les décors que j'ai, enfin j'en avais moins à l'époque, du coup maintenant ce serait compliqué de me déplacer comme ça à pied avec tout ce que j'ai. Mais en gros, je suis arrivée avec pareil des rouleaux de fond photo, avec un peu de vaisselle, et là je leur ai vraiment créé des ambiances dans le restaurant qui changeaient. J'ai pas juste pris leur table de restaurant et j'ai rien fait d'autre, parce que franchement, esthétiquement, ça aurait été compliqué. Donc là, je me suis vraiment amusée à emmener, moi, mon matériel et là, leur recréer un peu les univers. C'était pour leur nouvelle carte et ils voulaient des nouvelles photos. Et puis pareil, c'est vrai que c'est toujours des fois un peu compliqué parce que moi, j'ai déjà mes idées. En fait, je vois cuisine indienne, mais moderne. Donc tout de suite, j'ai des représentations de plans. En fait, je vois déjà tous les plans de mes photos. Je vois les couleurs. Je vois déjà tout, moi, en fait. Et c'est vrai que je suis arrivée face à la gérante qui, franchement, est hyper gentille, mais voilà, qui est très traditionnelle, vraiment le restaurant traditionnel qui est là depuis des années. Et elle voulait rester dans quelque chose de très traditionnel, mais du coup...
C'était moins ce que toi, tu envisageais pour ce shooting-là.
C'était pour refaire des photos qui existaient déjà. Je comprenais pas trop l'intérêt que j'avais à ce moment-là. Et puis surtout, le but, c'est pas de faire des photos kitsch, mais je pense de faire quand même des choses un peu modernes.
Et, ouais, innovant. qui vont changer et qui vont changer la donne aussi sur la communication du restaurant.
Mais ça, c'est dans tous les métiers créatifs. Et justement, quand on parlait de graphisme, surtout même dans le graphisme, c'est toujours un peu cette discussion avec le client qui veut quelque chose, mais toi, tu lui dis, ouais, mais tu sais que quand même, ça, c'est bien aussi. Et en fait, ce qui est bien, justement, avec ce restaurant-là, c'est qu'elle m'a accordé des libertés. Je lui montrais au fur et à mesure les photos, les sets, et elle était là à côté de moi. En fait, on a fait... à chaque fois, je lui demandais son avis. Et c'est cool parce que je trouve que dans les photos, il y a un peu ce côté quand même bien traditionnel qui ressort, mais il y a quelques photos aussi beaucoup plus modernes, et on a réussi à trouver un peu ce milieu. Et moi, je suis contente, en fait, parce qu'au final, c'est le compromis qui fait que moi, je suis contente des photos, mais elle aussi. Et c'est pas juste, moi, j'ai fait que des photos pour qu'elle, ça lui corresponde qu'à elle, et moi, les photos, bon, j'ai pas trop envie de les partager. Et ça, c'est top quand t'arrives à faire ce compromis.
Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu préfères, finalement, dans ce milieu-là, dans lequel tu évolues ? Finalement, le fait de travailler justement comme ça avec des restaurateurs, avec des magazines food, tout ça, c'est quoi l'ambiance qui...
Alors, c'est vrai que c'est important de le dire, mais c'est que, en fait, je me suis créé mon job de mes rêves. Ça fait un peu utopiste dit comme ça, mais franchement, je me lève tous les matins, je suis heureuse. Enfin, en fait, c'est fou parce que...
C'est ce qu'il faut, hein. Heureusement.
Non, mais je sais, mais je le dis parce qu'en fait, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le disent, qui sont dans des boulots qui... Voilà, enfin, clairement, ils se lèvent le matin, ils sont en mode pilote automatique, et puis c'est tout, mais ça leur va aussi, mais moi, ça... Et c'est fou, parce que je me suis créé ce job, parce que justement, quand je suis arrivée à Lyon, j'ai voulu quand même repostuler dans des agences de communication food, évidemment. Les gardes d'enfants, je me suis pas dit, tiens, je vais faire 6 mois de garde d'enfants. J'ai essayé de trouver plein de jobs, même dans la conception rédaction, j'ai essayé de trouver. Mais j'ai jamais trouvé, parce qu'ils avaient pas la place, parce qu'ils voulaient que des stagiaires, et en fait, je me suis créé mon job. C'est juste, en fait, Food History, c'est ça, je me suis dit, bon, j'aime cuisiner, je suis créative, j'aime imaginer les décors, je veux prendre les photos.
Et en plus, tu es sur une scène gastronomique nationale incontournable.
Exactement, et en fait, je me suis créé mon job sur mesure. En gros, c'est ça pour moi. Entrepreneuriat, c'était pas juste, je veux être entrepreneur. Bon, malgré que j'ai ce caractère très indépendant depuis très jeune et que j'ai pas trop eu de choix aussi dans ma vie, mais je crois que... c'est vraiment juste, surtout que c'était une solution à... Bon, en fait, j'arriverai jamais à trouver un job qui me plaît. Donc, j'ai pas le choix que...
Bah, donc, je me le crée.
Bah ouais, c'est ça. Et comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, bah la preuve.
Du coup... Au final, c'est comme ça que toi, tu te procures ta joie quotidienne.
Ah ouais, non, franchement, c'est top. Et bah évidemment, voilà, aujourd'hui, je le dis, puisque j'ai pas du tout honte, hein, mais je n'en vis pas encore. Et c'est sûr que le jour, par contre, où là, j'en vivrai, là, j'aurai atteint le but, en fait.
Parce que concrètement, tu te vois où, à un moyen long terme, un petit peu, là, dans...
Ou dans 2 ans, 2 ans et demi, je me dis, voilà, mon objectif sera dans vie, enfin, j'espère quand même. Et dans plusieurs années, je me vois même embauchée, c'est un vaste mot, soit m'associer, embaucher, avoir des stagiaires. Moi, j'adore transmettre et en fait, j'ai envie d'avoir des stagiaires et pour leur apprendre en fait.
Pour transmettre ta passion et...
J'aime partager et du coup, j'ai envie de... Donc voilà, et grandir évidemment en termes de société. Et ne plus avoir à démarcher les clients parce que juste tous les clients seront là, que mon réseau sera là et que voilà, ça courra de source. Et ça, oui, ce sera génial, quoi.
Parce que finalement, au niveau des démarches, tu fais ça sur un petit peu tous les restaurants ou tu as vraiment une fibre, une ligne directrice sur le choix de tes clients ?
Ah non, bah non, au début, tu peux... Enfin, après, je sais pas, hein, mais je pense pas que qui que ce soit puisse se permettre... bah évidemment j'aurais voulu par exemple choisir que des restos un peu végé qui sont très zéro déchet, enfin voilà dans des démarches très écologiques etc. J'aimerais mais ou faire, enfin, et pareil j'adore la gastronomie aussi donc c'est toujours un peu compliqué. En fait j'aime tellement de styles aussi de restos différents, j'aime les petits concepts sympas de brunch de machin, mais j'aime aussi le gros restaurant gastronomique très calibré ou les plats, enfin voilà, en fait j'aime pas. Donc non, et puis je me permets pas, par contre je me vois pas demain faire les photos de viande d'une boucherie alors que moi-même je mange pas de viande, enfin ce serait, moi ça me... je ne pourrais pas en fait, ça me dégoûterait déjà, donc ça oui, mais c'est vraiment l'extrême parce que bon enfin, voilà, c'est l'extrême, mais non sinon franchement les restaurants, et puis tout m'intéresse, mais je pense que vraiment tout m'intéresse.
D'accord. Donc, tu arrives quand même à beaucoup t'adapter au milieu dans lequel tu vas évoluer au niveau de toutes tes missions, quoi.
Oui, c'est ça, je me dis pas, je veux faire que du gastro, et du coup, faire que des plats hyper... Enfin, parce que le gastro, c'est pareil, il y a un attrait qui est génial, parce qu'il y a ce côté où l'assiette est de l'art, donc en fait, t'arrives, et pour le coup, tu prends la photo, et ça suffit. Enfin, je veux dire...
Oui, il n'y a même presque pas besoin de faire de mise en scène derrière.
Ah, mais pour moi, il n'y a pas besoin. Pour moi, c'est ça, c'est un peu... D'ailleurs, il y a des photographes qui font que ça. Ils vont photographier des assiettes blanches sur des fonds blancs. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça. Bon, moi, par contre, pour le coup, oui, je ne me verrais pas faire ça. C'est pas possible. Mais
c'est pas assez créatif. Enfin, finalement, il n'y a que le chef qui est créatif dans l'histoire.
C'est ça. En fait, j'aime faire ça. Parce que évidemment, et puis pareil, enfin, rencontrer juste, moi, je suis passionnée de tout ça. Moi, mes rêves depuis petite, c'est de rencontrer des grands chefs, c'est de.
Ah, quand même. Il y a quand même tout cet attrait derrière. Tu es très intéressée par le secteur aussi.
Ah, mais on fait pas ce métier-là si on n'est pas intéressée. De toute façon, enfin, c'est pas possible, je pense. Enfin, après, ça existe peut-être. Il y a peut-être des photographes culinaires qui font ça et qui s'intéressent pas à la nourriture. Mais ça me semble assez impossible quand même.
Non, mais je veux dire aussi tout ce qui est le monde autour de vraiment le produit en lui-même.
Bien sûr, mais j'étais la première à faire la queue quand Monsieur Cédric Grolet est venu en exclusivité. Je ne sais pas si tu avais entendu parler, mais il est venu sur le plateau.
C'est à Lyon.
Voilà. Il est venu sur le plateau de Croix-Rousse pour vendre ses fameux fruits. Mais j'ai fait la queue très tôt le matin pour acheter. Ah, mais bien sûr, mais je suis une passionnée, une fan même, je pense. Je serais peut-être même plus fan d'un chef étoilé que d'un groupe de musique, alors qu'avant, c'était l'inverse. Ah ouais, mais totalement. Mais moi, je regarde pas la télé, mais par contre, je regarde tous les replays de Top Chef, Master Chef, hein, tout ce qui est possible et inimaginable en termes d'émissions.
Ton feed Instagram doit être pas mal aussi.
Ah bah oui, mais bah, de toute façon, concrètement, c'est que ça. C'est ça, c'est vrai que je suis assez immergée, hein, c'est même, des fois, je me dis, vraiment, ma vie tourne autour de ça.
De la manière aussi dont je te connais, moi, c'est vrai que tu as pu constituer maintenant une communauté aussi autour de toi sur les réseaux sociaux que tu animes au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile dès le début de te faire un réseau comme ça autour de tes créations, autour vraiment de ce que tu faisais et puis la valorisation de ton métier?
Ah mais pas du tout, mais en fait pour moi le réseau il est pas créé du tout d'ailleurs. C'est-à-dire que je suis en plein dedans et mon réseau est pas du tout créé. C'est pour ça d'ailleurs que je suis ultra présente et pas que, hein, je me force pas du tout... En fait, je me force pas à publier ce que je publie parce que j'adore être.
Oui, c'est de la passion.
Mais ça, c'est ça. Les idées fusent du matin au coucher, à tous les moments de la journée. j'ai une liste sur mon téléphone de recettes auxquelles je pense et qui apparaissent comme ça, mais dans la journée. Je commence à avoir une très très longue liste et je me dis que si c'est ça toute ma vie, je pourrai jamais. Ça, ce sera pas possible.
T'auras jamais assez de temps pour autant cuisiner.
Pour ça, j'ai tout le temps des idées.
Alors, j'ai une question qui me vient là, comme ça. Mmh. Quelle serait la journée parfaite que tu aimerais vivre?
En fait, tous les contrats que j'ai eu dernièrement, j'ai tellement vécu à chaque fois des moments parfaits que ce serait un mix de... J'ai travaillé, en fait, pour une marque vegan qui s'appelle Tartex, du groupe Sebjørg. J'étais embauchée, en fait, que pour faire le stylisme culinaire, donc toute la nourriture et un peu imaginer le décor, mais surtout faire la nourriture.
D'accord, donc là t'avais plus un rôle de cuisinière finalement.
Concrètement c'était ça, et pareil, rendre un burger ultra sexy, alors maxi couche, plein de couleurs, machin, le petit détail, la pointe de sauce, mais oui, c'était ça. Et je dirais que c'est un mix entre ça, faire la photo après, mais même bosser dans la presse, enfin, pour moi c'est génial, parce que moi qui... la presse aussi c'est quand même... Tu vois, voilà, en gros je pense que là ce qui compléterait... tout ce que je fais, ce serait d'écrire pour la presse culinaire. Et là, je pense qu'on aura à peu près fait toute la boucle possible.
C'est vrai que là, il y aurait vraiment tout l'éventail des métiers rassemblés, de A à Z.
J'étais un peu en discussion aussi, bon, avec le Cause Magazine, après on verra, parce qu'avec le confinement et tout ça, il faudra qu'on en rediscute, mais ouais. Enfin, concrètement, si ça se fait aussi, enfin voilà, je peux rien ajouter de plus, hein, franchement. En fait, ma journée parfaite, c'est que toutes les journées, je puisse travailler comme ça. Et de la photo, et de la cuisine, et les réseaux sociaux, parce que j'aime bien un peu aussi. En fait, j'aime cette partie-là. Et c'est un mix de ça. C'est vraiment un mix de tout ça, tout ce que je propose, moi, dans mes services, de pouvoir tout faire en une journée. Pour un seul client ou pour plusieurs clients. Ça peut être le matin, faire des photos pour un resto, diviser la matinée en deux, après filer pour faire un reportage un peu pour le Cause Magazine. J'ai fait un reportage sur des boulangeries, c'était super. Le côté mouvement, dans les coulisses, en pleine action, les boulangers qui font le travail de la matière, enfin voilà, moi ça j'adore.
Et tout ce qui est côté relationnel et vraiment atmosphère aussi de ce qui se passe dans un restaurant, c'est quelque chose que tu fais ou pas du tout? Comme tu disais, les mouvements, prendre en photo aussi des gens en train, des serveurs.
Ah mais totalement, c'est ce que je propose en fait un peu d'ailleurs dans mon offre de community management, et ça inclut en fait un shooting un peu comme ça où justement je propose le pâtissier en train de faire son dessert dans la cuisine. Alors oui, c'est un peu le fouillis, ce côté hyper vivant, mais d'ailleurs je l'ai un peu fait avec Ephemera Restaurant, et d'ailleurs tu as interviewé Jade Palmer, voilà. Je voyais Loris par exemple dresser en dernier sa petite herbe du dessus. Mais
et comment tu sais à quel moment comme ça en action, à quel moment il faut capturer l'instant en fait? Comment t'arrives à ressentir le moment?
Purée, mais ça c'est de l'instinct, franchement. C'est de l'instinct, c'est de la pratique, parce que aussi ce qu'il faut savoir, c'est que bon, là ça va faire 10 mois que j'ai créé mon entreprise. En fait, c'est fou parce que je regarde mes anciennes photos et je sais que j'ai évolué, et ça c'est pareil, et ben c'est en pratiquant. Mais toutes les photographes te diront ça, hein, de toute façon, mais même dans tous les domaines, que ce soit en fait la personne qui va pratiquer tout le temps, sur plusieurs années. Et le pire, ça va être dans 3 ans, quand je vais regarder vraiment mes toutes premières photos, et je pense que je vais beaucoup rigoler.
Mais c'est toujours beau de pouvoir voir que t'as une évolution, en fait, aussi dans ton style artistique, et de voir que t'arrives à toucher maintenant du doigt un petit peu plus ce qui te plaît.
Ah, mais exactement. Et ouais, franchement, je peux pas répondre à ça. C'est comme, c'est comme demander un peu comment t'as un œil artistique. Tu peux pas répondre à ça. Déjà, il y a ce truc naturel. Si c'est le moment de vie, si je peux répondre en disant le moment de vie. Par exemple, on voit le cuisinier en train de touiller une sauce. Tu vas le sentir qu'il va commencer à prendre la cuillère pour, je sais pas, la relever de sa casserole. Et tu sais qu'en fait, du coup, tu sais que la sauce va tomber, qu'une goutte va tomber de sa cuillère. Et c'est ça qui va être intéressant à choper. Et ça, tu le sais. Donc, tu te prépares. Tu te prépares en amont. Et tu t'attends que la fameuse goutte tombe parce que tu sais qu'elle va tomber. Enfin, en fait, c'est ça. Je sais pas comment expliquer. En fait, comme tu cuisines, je pense que c'est ça. Quand tu cuisines et que tu es cuisinier et que tu es photographe culinaire, de toute façon, tu le sais parce que toi-même, tu cuisines et que tu pressens quel moment va être intéressant parce que tu sais que, pareil, j'adore. Mais quand j'ai fait mon reportage sur les boulangeries, bon, il y a eu un petit peu de mise en scène dans le sens où des fois, ils faisaient des jetées un peu de farine sur leur plan de travail, mais ils ne me le disaient pas spécialement, vu qu'ils étaient en pleine action, en plein travail. Et je leur disais, mais dites-moi quand vous allez jeter une farine sur votre plan de travail. Et puis bon, des fois, on a fait plusieurs essais pour que, bien sûr, j'essaye de capter vraiment le mouvement.
Mais c'est tout de suite moins naturel, du coup.
Bah, ça dépend, parce que si tu te fais un focus juste sur la farine, tu vois pas que le mouvement de main, il est pas naturel, si tu vois même pas le mouvement de main. Mais c'est surtout que oui, bien sûr que le mieux, c'est de... Enfin, moi, j'aime prendre les moments de vie totalement inattendus, et j'en parle pas, mais d'ailleurs, je ne fais pas que de la photo culinaire. Donc forcément, je photographie des gens, en fait. Je fais des mariages, je fais d'autres choses. Donc je pense que, bah, évidemment, je ne photographie pas que de la nourriture.
Oui, t'es bien placée pour savoir... quand et comment mettre un petit peu en scène ces moments de vie-là.
En fait, c'est un mélange d'œil que tu travailles, hein, parce que c'est pas non plus inné d'avoir un œil artistique ou autre. C'est à la fois une sensibilité, je pense, qu'on a quand même déjà, plus tout le travail que tu acquiers, l'expérience et les années qui passent. Enfin, voilà, et à force, forcément, tu pratiques, et ton œil s'affine, et c'est comme ça dans tous les métiers créatifs.
Du coup, je pense que c'est le bon moment aussi pour ma question signature du podcast, puisqu'on parle un petit peu de ce que tu prends en photo, les scènes de vie, etc. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, l'hospitality? Parce que c'est un mot qui est très souvent utilisé en anglais, mais en français, il peut avoir plusieurs sens. Quel sens tu lui donnes à l'hospitality?
Pour moi, l'hospitality, alors si je pars loin, ce serait, si on se place vraiment sur le côté art de recevoir, c'est proposer. Mais d'ailleurs, je trouve, enfin c'est marrant, mais l'éphéméra restaurant, en fait, il est la parfaite définition, parce que je trouve que éphéméra, Ils ont créé un petit espace très intimiste. C'est très intime, hein. Il y a peu de tables. Mais c'est génial, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on va dans un restaurant, c'est pas pour se trouver à côté de 30 personnes, entendre la conversation, enfin voilà, des gens, parce qu'ils sont à 10 cm de ta table. Et en fait, je trouve que Ephemera, voilà, il crée vraiment cette ambiance très intime, très feutrée. Il y a la cuisine qui est quand même au centre de leur resto. Enfin, moi, j'adore, mais moi, c'est ce que j'aimerais retrouver dans tous les restaurants, c'est de voir le cuisinier à côté, et il est là, et il dresse l'assiette devant moi, et c'est juste génial. Ils ont créé carrément un univers de A à Z, c'est-à-dire que le restaurant est un, sans même parler de la nourriture, et devient mais un lieu totalement magique, enfin c'est de l'art en fait.
Mais tu vis quelque chose quand tu es à l'intérieur de ce restaurant.
C'est sensoriel parce que tu as le côté gustatif, mais c'est surtout par les yeux. C'est les yeux, c'est comme un plat, c'est comme quand on te le met devant toi. Ce qui te touche, c'est, bah oui, c'est forcément c'est le dressage, et tu sais même pas le goût que ça a, ça se trouve c'est pas bon. Mais au final, tout séduit par les yeux. Et Ephemera Restaurant, tu arrives dans le restaurant, tu es déjà séduit par le lieu, c'est juste sublime ce qu'il propose en termes de décor et de concept. T'as ce côté voilà, très intimiste, t'as la cuisine qu'on retrouve en plein cœur, et je pense que ça d'ailleurs, il y a de plus en plus de concepts qui intègrent ça, les cuisines un peu au milieu comme ça. Et en plus, bah évidemment, ils font des plats qui sont juste sublimes, parce que j'ai eu l'occasion de les goûter, et que voilà.
Et de les photographier.
Et de les photographier, puis ça se voit que l'équipe veut bien faire, qu'ils sont accueillants, enfin voilà, c'est... Ouais, c'est vrai que ça résume bien, je trouve, ce restaurant. Il faudrait qu'il y ait ça dans tous les restaurants, en fait, ce qu'ils proposent. Est-ce que je peux juste dire aussi quelque chose?
Bien mais, sûr, c'est... je t'en prie.
Vis-à-vis de Cookie, tu as vu le post LinkedIn là, que j'avais fait, qui a fait...
Qui a fait 16 000 j'aime.
Ouais, voilà. Et en fait, bref, dans ce post, j'explique que j'ai bientôt 26 ans, que c'est mon bébé. D'ailleurs, ça avait été très polémique de dire qu'une entreprise est un bébé, oulala.
Bah non, justement, moi j'ai trouvé que ça montrait vraiment que... Bah, ce que ça te procurait sincèrement d'être en freelance et d'être entrepreneuse, pour toi, c'est vraiment bah, la création de quelque chose. Tu fais ressortir une certaine énergie de toi et bien sûr qu'il faut valoriser ça. Donc dire que c'est ton bébé, en soi, moi, ça me choque pas.
Bah tant mieux. Ah non, mais moi non plus. Enfin, j'ai pas trop compris. Après, il y a pas eu beaucoup de personnes. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que au-delà de oui, juste... En fait, la nourriture, moi, à 18 ans, je cuisinais déjà... comme quelqu'un qui en a 30 ou 40, quoi. Je faisais déjà des macarons dans mon four à 18 ans.
C'était déjà une passion pour toi, la cuisine ?
En fait, c'était déjà une passion, mais je tiens à dire quelque chose, bon, c'est pas évident, mais je pense que c'est important de le dire, c'est que j'ai eu des rapports très compliqués avec la nourriture, mais pendant des années. J'ai toujours eu un rapport complexe, c'est qu'au final, la nourriture, d'une manière ou d'une autre, a toujours été un peu au centre de ma vie, alors c'est un peu bizarre de dire ça. Ça a été... à la fois malsain parce que du coup je me réfugiais là-dessus quand voilà j'ai eu un gros événement qui me suis arrivé jeune et en fait bah ça m'a un peu poussé en fait j'ai pas eu le choix que d'être un peu indépendante très tôt et du coup voilà c'est comme ça c'est comme des personnes vont se réfugier bah, sur l'alcool sur autre chose moi c'était la nourriture donc j'ai eu des rapports très compliqués pendant des années avec tout ça ça a duré mais vraiment des années donc c'est et en fait c'est un peu une revanche aussi
c'est une sorte de résilience oui c'est ce que j'allais dire le fait d'avoir créé ta boîte autour de ça c'est une revanche sur la vie voilà de dire je suis capable d'aller plus loin
c'est ça et c'est tout le brouillard parce que j'ai l'impression que pendant presque 10 ans mais c'est ça en fait de mes 16 ans à franchement, très récemment, hein, j'ai vraiment eu l'impression de tout le temps me chercher, mais c'est long, disant, enfin, je sais qu'il y en a beaucoup se cherchent, voilà, j'ai plein d'amis encore à 25 ans, ils sont tous perdus, mais ça fait 10 ans et c'est long, et en fait, et puis tous ces soucis perso, et puis voilà, il y a des choses qui te marquent à vie, qui te changent, et c'est en fait, c'est ça, c'est un peu la guérison de tellement de choses, et franchement, j'ai aucune honte à le dire, j'avais été voir une psy l'année dernière, et elle m'a dit, et en fait, j'ai trouvé ça ultra intéressant. C'est qu'elle m'a dit, mais peut-être que le fait de mettre en avant la nourriture, ça vous permet d'avoir un beau rapport éloigné, de la mettre en valeur, mais...
De manière libérée, finalement.
Exactement. Et je parle de ça, mais parce que c'est...
Et que c'est au centre aussi de ton activité.
Ouais, et ça fait partie de moi. Et je pense que juste, on devrait le dire quand il y a des choses comme ça à dire. Et puis voilà, et donc au-delà de juste oui, alors oui, bien sûr que j'ai créé mon entreprise, et que c'est parce que beaucoup, enfin de plus en plus de personnes créent un peu leur entreprise, mais moi je crois que c'est vraiment à la fin de 10 ans, c'est...
La consécration.
Ouais, c'est un peu 10 années de grosses galères émotionnelles et un peu psychologiques, et du coup, voilà, et c'est génial en fait. Enfin, bon. Et c'est d'autant plus pour ça que ça me tient à cœur.
Que t'as voulu vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat et vivre une aventure de ce type-là.
Exactement.
Parce que finalement, quand on parle avec des entrepreneurs, souvent on parle de vraiment se lancer, partir à l'aventure. C'est vraiment ça que tu vas vivre, hein, que tu as commencé à vivre et à créer.
Donc voilà, je finirai par dire ça.
Écoute, c'était une très belle conversation en tout cas. Merci pour le partage de toutes ces valeurs. J'ai beaucoup aimé. Tu es passé par beaucoup de choses, effectivement. Ça a été un long parcours, mais j'espère que c'est finalement... ce pourquoi tu es faite, et je l'espère, à mon avis, tu as vraiment trouvé ta voie maintenant, donc c'est super en tout cas.
Bah c'est ça, la conclusion, c'est qu'on se cherche, quand tu trouves ta place, c'est juste un sentiment, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas leur place encore à 30 ou 40 ans, ou qui sont dans des vies qui ne leur correspondent pas, et là je peux dire, c'est bon, à 25 ans, en fait j'ai peur de rien, je sais où je vais, et ouais, je sais où est ma place, quoi.
Oui, en fait, ça te donne une certaine force au quotidien pour avancer, parce que tu es sûre de toi, en fait.
Ah, mais je suis sûre, mais c'est ça. Je peux pas être plus sûre de ça. Hein.
Incroyable. Où est-ce qu'on peut te retrouver au quotidien? Donc, bien sûr, sur Instagram.
Ouais, sur Instagram. Alors, c'est food-du-bas, history, donc I-S-T-E-R-I-E. Après c'est vrai que j'aime bien LinkedIn parce que j'essaye d'être active dessus, donc bah Maureen Domprobst, voilà. Et puis évidemment bah du coup mon site, hein, mon site internet, donc foodhistory.com.
Super. Et bah écoute, un grand merci à toi. J'espère pouvoir avoir de tes nouvelles bientôt, peut-être sur le podcast. Donc ça a été un réel plaisir de t'avoir ici. C'était un très beau partage d'expérience.
Et bah merci à toi. Merci beaucoup pour ton écoute et puis bah, pour cette discussion. Ça fait du bien.
Un grand merci pour avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce dernier vous a plu, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires, juste ici sur Apple Podcast, ou bien me noter de quelques étoiles sur cette même page de Apple Podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, @esprithospitality, et je vous invite à aller checker le compte de Maureen, qui est juste magnifique et donne bien envie. Moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt.